l'aire terrestre éducative de Kervan.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission spéciale consacrée au potager de Kerval dans notre aire terrestre éducative.
Une émission 100% légumes, pleine de découvertes et de bonne humeur, réalisée par notre classe.
Au programme, une grande interview avec Céline Guyourou, maraîchère qui cultive le potager avec passion.
Des chroniques étonnantes sur un légume oublié.
Et même une fausse pub et une météo potagère très spéciale.
Mais tout de suite, place à notre invitée.
Céline Guyourou est maraîchère dans notre région. Elle cultive ses légumes au naturel et les vend sur les marchés, par exemple au four.
Voici la première partie de notre interview.
Bonjour Céline et merci d'être avec nous.
Bonjour.
Pour commencer, est-ce que c'est dur d'être maraîchère ?
Oui, c'est très dur car c'est très physique et qu'il faut travailler beaucoup, parfois dans des conditions très fatigantes. Il peut faire très chaud dans les serres, on peut être en plein soleil ou dans le froid, la pluie et le vent, parfois même les trois ensemble. Donc on est souvent très longtemps dans des positions vraiment pas confortables, comme à quatre pattes ou accroupi, et on porte aussi des lourdes charges.
Trouves-tu que c'est plus difficile que d'autres métiers agricoles ?
C'est très très dur de répondre à cette question parce que je n'ai pas tout testé. Malgré tout, j'ai l'impression que les agriculteurs travaillent tous très très fort. Par contre, ce que je sais, c'est que le maraîchage nécessite un très grand nombre d'heures de travail parce que le légume est très peu valorisé. Et donc, comme il n'est pas assez rentable pour qu'on puisse embaucher, on ne peut pas déléguer certaines tâches, ni même se faire remplacer si on est malade ou blessé. Mais par contre, on n'est pas exposé aux pesticides parce qu'on est en bio, ni aux gaz toxiques qu'on peut avoir par exemple dans les élevages, comme l'ammoniac par exemple.
C'est aussi un métier très physique. Comment fais-tu pour tenir le coup au quotidien ?
Alors, je m'alimente bien, je bois beaucoup d'eau et j'essaye de faire des petites pauses quand je sens que la fatigue se fait trop présente. J'alterne les tâches pour ne pas être tout le temps dans la même position. J'essaye de ne pas porter des choses trop lourdes, je le fais en plusieurs tours, quoi. Et j'organise ma journée pour ne pas travailler aux heures les plus chaudes ou en plein soleil. Et en fait, j'ai un petit secret à vous confier, je fais la sieste.
Est-ce que tu arrives à prendre des jours de congé ou à partir en vacances ?
Non. J'essaye de ne pas travailler le dimanche après-midi, dans la mesure du possible, même s'il y a toujours des petits trucs à faire en soirée ou en début d'après-midi. Et de temps en temps, je suis obligée de prendre une demi-journée pour faire les choses qu'on ne peut pas faire autrement, quoi. Mais ça, c'est très, très rare. Et les vacances, bah, alors là, c'est très, très compliqué parce que il y a toujours des choses à faire à la ferme. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour gérer les ouvertures de la serre, les arrosages pendant la belle saison. Et en hiver, comme il y a les tempêtes, ça reste très, très compliqué de s'éloigner de la ferme. Donc, ça m'est arrivé de prendre trois fois cinq jours, mais je devais partir toute seule. Et cette année, on a quand même décidé de s'arrêter de travailler pendant 2 semaines, mais par contre, on est resté à la ferme.
Quelles sont les tâches principales d'un maraîcher selon les saisons ?
Alors, déjà, toute l'année, c'est de faire les semis, les arrosages, les binages, les plantations, les récoltes, la vente et les tâches administratives. Au printemps, il faut mettre en place des structures, travailler le sol superficiellement dans notre cas, nourrir la terre. Le désherbage, paraît sans fin avec toutes les adventices qui poussent à ce moment-là. Et c'est aussi le moment de mettre en place la plupart des légumes d'été. On va remplir nos serres pour avoir des tomates, des aubergines, des poivrons, des choses comme ça. Et les nuits sont alors froides, donc il faut couvrir les légumes le soir et les découvrir le matin. L'été, c'est les récoltes qui sont très abondantes. Ça prend vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Et s'il fait chaud, bah, il faut arroser. Et s'il ne fait pas très beau, en général, les mauvaises herbes poussent de plus belles. Donc, il y a du désherbage à faire. L'automne, c'est pareil, il y a énormément beaucoup de récoltes. Et là, en automne, on doit anticiper la venue de l'hiver et préparer le sol à passer cette saison un peu dure. Donc, soit on sème des engrais verts, soit on met des paillages. Les engrais verts étant l'idéal, quand même. Et c'est aussi le moment de planter des arbres. Enfin, on commence à planter des arbres. Et à ce moment-là, les premières tempêtes peuvent arriver. Ensuite, donc, arrive l'hiver. Là, on fait tout ce qu'on n'arrive pas à faire pendant la belle saison parce que les rythmes ralentissent quand même. Ça peut être des petites choses, des clôtures, des montées des structures, entretenir les bâtiments. Et donc, il reste quand même beaucoup de légumes hein, dans les serres à entretenir et récolter et vendre, bien sûr. Et puis, bah, y a les tempêtes.
Le podcast de l'aire terrestre éducative de Kerval.
Après cette première partie passionnante, on fait une petite pause.
Installez-vous confortablement, respirez un bon coup de nature et écoutez ce moment musical. On écoute Le Jardin extraordinaire de Charles Trenet.
Et on se retrouve juste après pour la suite de l'interview.
C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain, ils remuent leur derrière en me disant « Thank you very much, Monsieur Trenet ». On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi, je sais que dès la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon. Papa, c'est un jardin extraordinaire. Il y a des oiseaux qui tiennent un buffet. Ils vendent du grain, des petits morceaux de gruyère. Comme clients, ils ont monsieur le maire et le sous-préfet. Il fallait bien trouver dans cette grande ville maussade où les touristes s'ennuient au fond de leurs autocars. Il fallait bien trouver un lieu pour la promenade. J'avoue que ce samedi-là, je suis entré par hasard dans ce jardin extraordinaire. Loin des noirs buildings et des passages cloutés, il y avait un bal que donnait des primevères. Dans un coin de verdure, des petites grenouilles chantaient une chanson pour saluer la lune. Dès que celle-ci parut toute rose d'émotion, elles entonnèrent, je crois, la valse brune. Une vieille chouette me dit, quelle distinction! Maman, dans ce jardin extraordinaire, je vis soudain passer la plus belle des filles. Elle vint près de moi et là me dit sans manière, vous me plaisez beaucoup, j'aime les hommes dont les yeux brillent. Il fallait bien trouver dans cette grande ville perverse une gentille amourette, un petit flirt de 20 ans qui me fasse oublier que l'amour est un commerce dans les bars de la cité. Oui mais pas dans mon jardin extraordinaire. Un ange du bizarre, un agent nous dit, étendez-vous sur la verte bruyère, je vous jouerai du luth pendant que vous serez réunis. Cet agent était un grand poète, mais nous préférions Artémise et moi. La douceur d'une couchette secrète qu'elle me fit découvrir au fond du bois. Pour ceux qui veulent savoir où le jardin se trouve, il est, vous le voyez, au cœur de ma chanson. J'y vole parfois quand un chagrin m'éprouve. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination.
Vous êtes toujours avec nous dans le potager de Kerval.
On retrouve tout de suite Céline Guirou pour parler du changement climatique et des conseils pour jardiner autrement.
Deuxième partie de notre interview.
En travaillant la terre, est-ce que tu constates les effets du changement climatique ?
Oui, même pas trois ans, même pas deux ans, plutôt, on a quand même eu une tempête majeure et une sécheresse terrible avec des températures qu'on n'avait jamais vues avant ici. Les printemps me semblent aussi plus froids et je crois que c'est pas qu'une impression, parce que j'en ai parlé avec des personnes plus âgées et qui me confirment, en fait, c'est pas qu'ils sont plus froids, mais les nuits peuvent être très très froides. Donc il y a des grandes variations au printemps, des grandes variations de température. C'est gênant pour certains légumes et les arbres fruitiers aussi.
Est-ce que tu réfléchis à des solutions pour t'adapter à ces changements ?
Oui, bien sûr. On essaye d'adapter nos pratiques. On continue à utiliser des paillages pour garder l'humidité de la terre quand il fait trop sec, ou pour la protéger des intempéries, comme je disais tout à l'heure. Puis on l'enlève au printemps pour permettre à la terre de se réchauffer. On la remet ensuite. On plante des arbres caducs entre les jardins, ce qui permet que l'été, avec leur feuillage, ils nous fassent un peu d'ombre. Et que l'hiver, quand on n'a pas trop de soleil, il laisse quand même passer un petit peu le soleil. Donc on plante des haies. Des haies pour protéger du vent, ça s'appelle des haies brise-vent. Et on les plante dans différentes orientations parce que les vents principaux ont tendance à changer depuis ces dernières années. C'est surtout les vents de sud-ouest qui sont présents, alors qu'avant c'était plutôt nord-ouest. Donc on choisit des variétés de légumes ou d'arbres qui supportent mieux les excès de chaleur l'été pour l'été et ou les excès d'humidité pour l'hiver. Et aussi des variétés qui supportent mieux les grands écarts de température dont je parlais tout à l'heure. Et concernant les arbres fruitiers, on va même jusqu'à mettre des arbres qui sont plutôt prévus pour le soleil, comme des abricotiers ou des pêchers, parce qu'on ne sait pas du tout de quoi l'avenir va être fait.
Quel type de légumes cultives-tu ? Comment fais-tu tes choix ? Est-ce que en fonction du sol, du climat, de la demande des clients ?
Alors, on cultive à peu près tous les légumes qui peuvent être cultivés ici, sauf quelques-uns, mais ils sont plutôt rares. Et on a à peu près une quarantaine d'espèces, je crois. Donc, les choix se font d'abord en fonction du goût. Ça, c'est vraiment la priorité. Mais les légumes, ils ne doivent pas seulement être bons, ils doivent aussi être résistants aux maladies, aux aléas climatiques, et pour avoir un minimum de rentabilité. Les demandes des clients, ils me demandent des fois des choses que j'ai jamais essayées. Alors je suis curieuse, j'essaye l'année d'après. Mais en général, ça détermine surtout le nombre de légumes à planter de chaque espèce.
Cultives-tu les légumes rares comme les topinambours ou autres variétés originales ?
C'est rigolo que tu me parles des topinambours, ça fait partie des très rares légumes qu'on ne cultive pas parce qu'on a des campagnols chez nous. Les campagnols, c'est comme une souris, mais qui vit sous la terre et qui fait des topinières. Et à l'inverse de la taupe, elle va manger surtout les racines des légumes et même de certains jeunes arbres fruitiers. Donc pas de topinambours. Par contre, on fait des choux de Bruxelles, des bêtes, des tomates anciennes, des pastèques, des courges très variées. Enfin, on essaye de faire plein de choses.
Quel est ton légume préféré à planter ?
Eh ben, j'hésite entre les choux et les bêtes parce que c'est tout de suite très joli une fois qu'on les a plantés et ça va très vite pousser et devenir encore plus beau en fait.
As-tu des astuces pour nettoyer et entretenir les parcelles cultivées ?
Ben, ça dépend un petit peu de ce qu'on va mettre comme légumes, mais globalement, j'aurais tendance à dire, si vous pouvez, vous mettez du paillage. Ça, c'est parfois entretien quasi zéro. Et sinon, il faut biner régulièrement.
Pour ceux qui nous écoutent et qui ont un potager, quels conseils pourrais-tu donner pour améliorer ?
Eh ben, c'est surtout favoriser la biodiversité au potager, en fait. Il faut vraiment bannir les pelouses rases, les grandes pelouses rases, là, ça, c'est pas terrible. Ça va être réservé, justement, à une petite allée autour du potager, mais d'1 mètre de large, ça suffit. Et si vous avez un jardin assez grand, vraiment, vraiment laisser un petit massif d'orties. Ça accueille une biodiversité incroyable, notamment les coccinelles qui vont pondre leurs larves, que vous pourrez aller kidnapper et emmener sur vos légumes infestés de pucerons.
Quels légumes poussent le plus vite pour les impatients qui veulent récolter rapidement?
Oh, je crois que c'est le radis quand même, hein. C'est le champion toute catégorie, le radis qui s'appelle le radis de 18 jours, il pousse en environ 3 semaines. Par contre, gare aux limaces, elles aiment bien ces légumes là qui poussent vite justement.
Merci encore à Céline pour toutes ses réponses. Maintenant, direction un légume oublié mais pas inintéressant.
Il a un nom rigolo, un goût original et des effets parfois surprenants.
Voici notre chronique sur un drôle de légume.
Nous voulions vous parler d'un légume assez méconnu, le topinambour.
Il est de la même famille que le tournesol.
Il a été importé en France en 1610 par un explorateur, Samuel Champlain.
C'est un tubercule, c'est-à-dire une réserve d'énergie que la plante garde dans la terre.
Il vient du Canada et il a eu beaucoup de succès à une époque.
Mais attention, il peut donner un peu de gaz.
À l'intérieur, il est marron-violet. À l'extérieur, il est beige.
On peut le manger cru ou cuit, mais s'il est cuit, il faut bien le faire bouillir.
La fleur du topinambour ressemble à celle du tournesol et la plante peut devenir très grande.
Son nom scientifique est Helianthus tuberosus.
Et le topinambour peut aussi se cultiver très facilement dans les jardins. Bon, après ce moment éducatif, on avait aussi envie de vous faire rire un peu.
On a donc inventé un tout nouveau légume.
Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons vous présenter un scientifique qui a créé le citron braise. Bonjour monsieur le scientifique.
Bonjour.
Alors pouvez-vous nous parler du citron braise?
Ce citron braise est un citron breton avec des particules de Kuhneman et de sablé breton, il remplit breton.
Et où est votre création?
Je suis là.
Ah, tu parles?
Bah oui, on m'a mis une puce dans la peau.
D'accord. Monsieur, pouvez-vous nous en parler un peu plus?
Oui, je l'ai fait grâce à ChatGPT.
Merci, voilà la fin de l'interview.
J'ai un goût d'artichaut ou de radis, à vous de goûter.
Et surtout, la météo du potager annonce un grand soleil sur les pommes de terre, mais attention aux averses de limaces cette nuit. Voilà, notre émission touche à sa fin.
Un grand merci à Céline Guérou pour son accueil, ses réponses et ses légumes.
Merci aussi à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été avec nous.
Et surtout,
à bientôt dans le jardin de Kerval.
Kerval, 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 Kerval.
Le podcast de l'aire terrestre éducative de Kerval.